BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Une heure H très riche aujourd'hui. On va parler beaucoup de réformes et des conséquences que ça peut avoir sur votre portefeuille ou sur votre retraite. Je recevrai François-Xavier Celleret. Il est le directeur général de l'AGIRC Arco. Vous savez qui ont été réformés, donc fusionnés. Quel impact ça a sur nos retraites complémentaires? Et puis bien sûr, on parlera de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Je recevrai aussi Fabrice Langlard. Il est président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital. Un rapport très très attendu. Il viendra nous le dévoiler en avant-première sur l'impact de la suppression de l'ISF. Vous savez, c'est à partir de cette décision-là, de ces commentaires-là, que devrait prendre la décision de maintenir ou pas la LIFI et la réforme de la fiscalité du capital. Et puis, dans un instant, il est déjà en studio avec nous, c'est Christian Peugeot, il est président du comité des constructeurs français d'automobiles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis, président aussi de la Fédération mondiale des constructeurs. Vous avez publié les chiffres ce matin, des chiffres plutôt rassurants sur l'état du marché automobile français. On voit ça dans un instant, mais pour l'instant, c'est Thomas Asportas qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal avec ces révisions à la baisse très lourdes qui viennent d'être publiées du côté de l'OMC. Le commerce international ne devrait finalement progresser cette année que de 1,2% contre 2,6% prévu au départ. Pour l'année prochaine, la prévision passe de 3% à 2,7%. L'OMC pète du doigt, bien sûr, l'effet des tensions commerciales, mais aussi la volatilité financière et les effets du Brexit. Et puis les craintes de l'OMC se confirment avec la contraction du secteur manufacturier qui se prolonge en Europe. L'activité en zone euro en septembre est tombée au plus bas depuis 7 ans. Cela fait maintenant 8 mois d'affilée que le secteur manufacturier se contracte en zone euro. En Allemagne, les PMI manufacturiers sont maintenant à leur plus bas niveau depuis juin 2009. En France, l'activité a là aussi ralenti, mais elle se maintient tout juste en zone de croissance. Et puis en Grande-Bretagne, l'activité, là aussi, toujours en contraction et les effectifs ont subi leur baisse la plus marquée depuis février 2013. Et puis on reste en Grande-Bretagne, justement, avec la CBI, le MEDEF britannique, qui nous dit que le moral de la finance britannique est maintenant au plus bas depuis la crise de 2008, 56% des dirigeants du secteur financier britannique disent avoir maintenant beaucoup moins confiance. Le secteur aurait déjà perdu 5000 emplois du fait du Brexit. Boris Johnson promet qu'il va présenter très bientôt de nouvelles propositions pour éviter un hard Brexit. Ce serait, d'après les médias britanniques, jeudi au plus tard. Et puis, les taux négatifs vont-ils bientôt peser sur nos assurances-vie? La question se pose, en tout cas, pour François Villeroy de Gallo. Les taux servis sur les contrats en cours sont aujourd'hui encore élevés, 1,8% en moyenne. Ils devront baisser pour tenir compte de la diminution des rendements, dit le gouverneur. François Villeroy de Gallo ajoute qu'il veillera à ce qu'aucune banque française n'applique de taux négatifs pour les dépôts à vue des particuliers et des PME. Du côté des entreprises, vous le disiez Edwige, l'actualité, bien sûr, c'est le rebond du marché automobile français. Les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 16,6% au mois de septembre par rapport au mois de septembre 2018. Alors on se souvient qu'à l'époque, les ventes d'automobiles avaient été plombées par l'entrée en vigueur des normes WLTP, mais le marché français, manifestement, s'est remis du choc de ces nouvelles normes. Le CCFA prévoit maintenant une année 2019 quasiment à l'équilibre. Vous verrez tout ça en détail, Edwige, avec votre invité Christian Peugeot. Air France va compenser à partir de l'année prochaine toutes les émissions de CO2 de ses vols intérieurs. La compagnie explique que cette compensation prendra la forme de participation à des projets certifiés par des organismes reconnus. Air France annonce également vouloir réduire de 50% ses émissions de CO2 d'ici à 2030. Et puis pour finir, la situation des Vélib à Paris a l'air de s'être nettement améliorée. C'est en tout cas ce qu'affirme son opérateur Smooth & Go, hein, qui a succédé à JC Deco. Smooth & Go nous dit donc avoir aujourd'hui 255 000 abonnés, pas loin des 285 000 qu'avait à l'époque JC Deco. 16 000 Vélib sont aujourd'hui en circulation en Ile-de-France. BFM Business, il est midi 3, en file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 recule de 0,17% à 5668 points. L'euro dollar, quant à lui, est stable. Un euro s'échange pour un dollar 0,897. On est passé en tout cas sous le dollar 0,9.
Merci Thomas. On vous retrouve bien sûr à 12h30 avec cette actualité décidément très transport. On parle d'avion, on parle de vélo et on parle de voiture. On en parle tout de suite avec Christian Peugeot, le président du CCFA. Tout de suite.
BFM Business, l'heure H. La question du jour.
Christian Peugeot, je le rappelle, président du comité des constructeurs français d'automobiles et puis aussi président de la Fédération mondiale des constructeurs. Donc c'est intéressant de voir peut-être au niveau mondial si ça confirme les chiffres que vous avez publiés ce matin au niveau du marché français, qui montrent que le marché français se porte mieux, voire bien, voire même sur l'ensemble de l'année, vous êtes plus optimiste qu'il y a encore quelques mois. Expliquez-nous.
Oui, la prévision aujourd'hui, c'est d'une stabilité en fait pour le marché, mais une stabilité à un niveau qui est assez élevé. Donc c'est plutôt favorable, un peu plus favorable que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Au niveau mondial, on est quand même plutôt sur une tendance un peu baissière. La Chine, évidemment, mais aussi un peu les États-Unis. Le niveau est élevé. globalement, on est à près de 100 millions de voitures vendues dans l'année, pas tout à fait, mais on est plutôt dans une tendance un peu baissière quand même.
Christian Peugeot, pour la France, donc 16,6% en septembre. Oui. En fait, vous avez corrigé la chute de septembre 2018. Il y a un effet rattrapage par rapport, il y a un effet technique évidemment par rapport à l'application de nouvelles normes. Mmh. On s'en souvient, c'est une espèce de coup de tabac qu'il y avait eu sur le marché automobile, donc fin août, début septembre.
Oui, il faut regarder le cumul, 9 mois, c'est ça qui compte. Là, c'est purement technique, effectivement, l'écart apparemment très favorable.
Oui. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe, diesel, essence, électrique, petite baisse du diesel, et en même temps, on voit que le marché de l'occasion, ça repart aussi. Donc le diesel, il n'est pas mort du tout, il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Hein.
Oui, écoutez, le débat sur le diesel a été un peu émotionnel, un peu émotif, un peu trop, probablement. Bon, aujourd'hui...
Il a été souhaité par le gouvernement. Hein.
Oui, alors, le gouvernement, justement, a lancé une étude pour savoir si les nouveaux diesels méritent d'être critère 1, à l'instar des essences, en regardant donc les résultats sur les polluants, donc les particules et les NOx. Cette étude est en cours. Nous pensons qu'a priori ça devrait être le cas. Et puis on rappelle qu'évidemment les diesels consomment moins que l'essence, donc rejettent moins de CO2. Donc, mais on attend ça. Alors, il y a un peu d'incertitude. Il y a quand même le fait que les gens constatent qu'un véhicule diesel consomme moins qu'un véhicule essence. Donc ça, pour le portefeuille, c'est important. Donc, il y a un peu de stabilité dans la baisse. En fait, je ne crois pas que le diesel va remonter, mais par rapport à l'essence, il est assez logique qu'il y ait un équilibre qui soit trouvé.
Oui, le marché de l'électrique, on est à 1,9. Objectif 6% en 2022, on n'y sera jamais, non ? Ou si vous y pensez ?
Écoutez, les constructeurs font ce qu'il faut pour que ce soit possible. En d'autres termes, les constructeurs, notamment français, vont présenter des gammes extrêmement complètes de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables. Donc, l'ensemble, c'est les véhicules électrisés, dès la fin de cette année, et pour être disponible en 2020. Donc, l'offre automobile va quand même permettre de faire évoluer le marché. Alors, le problème, c'est évidemment la confiance du consommateur sur l'utilisation de l'électrique. Quand on fait que de la ville, il n'y a pas de problème.
Oui.
Mais lorsqu'on... Parce qu'il y a maintenant des voitures électriques qui proposent plus de 300 km réellement d'autonomie. Donc, c'est pas mal. Quand on fait 30 km par jour en ville, ça suffit largement, ou 50 km. Bon, la question, c'est effectivement d'augmenter les bornes de recharge disponibles et puis d'augmenter ce qu'on demande beaucoup, le droit à la prise réelle dans les immeubles, qui est encore une notion qui est un peu...
Très aléatoire. Il suffit d'essayer auprès de son syndic. C'est pas si évident peux vous le confirmer.
Ouais.
Christian Peugeot, est-ce que lorsqu'on regarde une reprise très dynamique, mais avec des bilans contrastés, groupe Peugeot, PSA se porte plutôt bien, groupe Renault un tout petit peu moins, en l'occurrence c'est un peu plus de, en dessous de 6%, moins 6% de baisse, moins 5,80, groupe PSA va mieux, il y a une différence entre les deux groupes français ?
Écoutez, les fluctuations sont des notions qu'on connaît. Hein. Au mois le mois, on ne peut pas considérer que les choses sont stabilisées. Donc, les explications sont parfois un peu oiseuses, si on veut rentrer dans le détail. Bon, il est vrai que les deux groupes français, globalement, marchent bien. Ça dépend un peu des renouvellements. C'est vrai que le groupe PSA a beaucoup de renouvellements en cours et des modèles à succès. Mais le groupe Renault est également, c'est ce qu'ils mettent en avant, en train de renouveler leur modèle phare, notamment la Clio. Donc, je dirais que globalement, quand même, les deux groupes français tiennent bien leur place par rapport à la concurrence étrangère.
Le groupe Volkswagen, plus 49,26%, en tous les cas, c'est un effet rattrapage. Hein.
C'est ponctuel, puisque l'année dernière, ils avaient quasiment rien à proposer. Donc forcément, sur le mois de septembre. Donc c'est un effet rattrapage.
Oui. J'ai regardé sur le tableau que vous nous avez envoyé, vous voyez, je dis tout à nos auditeurs et téléspectateurs. Ouais. Donc il y a le plus, les moins, etc. Et j'ai vu qu'il y avait le chiffre le plus élevé, c'est plus 114,80%, c'est pour Lamborghini, parce qu'il y a eu 116 Lamborghini qui ont marché. Il y a un effet richesse ou pas ? Est-ce que vous l'observez ou c'est vraiment ponctuel ?
Je pense que c'est ponctuel. Bon, l'analyse de six petits chiffres n'est pas forcément évidente, surtout qu'ils sont parus ce matin, donc on n'a pas encore tous les éléments.
Quand vous dites que vous êtes plus optimiste sur que vous ne l'étiez il y a encore quelques mois, sur l'année 2019, vous optez pour une stabilité ou vous allez un petit peu plus loin, c'est-à-dire vous pensez que ça sera un marché en légère progression?
En fait, stabilité, si on prend que les véhicules particuliers, mais comme les véhicules utilitaires légers sont déjà en progression, Et donc, on est déjà en stabilité au bout de 9 mois. Donc, on peut penser qu'on sera autour de zéro, mais peut-être qu'avec les véhicules utilitaires, on sera un petit plus. En tout cas, c'est quand même assez favorable parce que le niveau est assez élevé.
Pour l'année prochaine, vous avez beaucoup plus. Je crois que vous avez qualifié cette année 2020 d'imprévisible parce qu'il y a un changement de normes au niveau européen, donc très important. Ouais. Et puis, il y a aussi l'instauration de ce bonus-malus. Ouais. Ça va avoir un impact très négatif, vous pensez ?
Et alors, le bonus-malus, c'est une chose, et il y a aussi les objectifs de 95 grammes pour l'ensemble des constructeurs.
Ça, c'est les normes européennes.
Normes européennes qui effectivement obligent les constructeurs à revoir un peu leur gamme, parfois à supprimer un certain nombre de modèles qui sont assez consommants, et puis à faire des efforts importants dont j'ai parlé, de propositions de gamme électrisée. Bon, donc ça va quand même pas mal chambouler le marché, et il y a un peu d'incertitude devant ce nouveau contexte. Donc l'incertitude n'est jamais bonne pour la dynamique d'un marché.
Est-ce que vous regrettez ce nouveau bonus-malus voulu par le gouvernement ?
Écoutez, moi je trouve que les pouvoirs publics sont un peu radins avec l'automobile. Je m'explique. L'automobile rapporte 44 milliards de taxes à l'État. L'État en dépense 14 pour la mise en place des infrastructures, des routes. Bon, ça fait 30 milliards nets. Et là, quand on discute des bonus-malus, on nous fait comprendre que c'est dans une cage très précise. On ne peut dépenser en bonus qu'il y a en malus. Bon, en réalité, c'est faux. Si on veut permettre notamment aux véhicules électriques de se développer, un contexte favorable en termes de bonus est nécessaire. Ça n'est pas les sommes envisagées éventuellement en perte, alors que l'État a gagné de l'argent depuis 2 ans d'ailleurs sur ces bonus-malus, qui devraient bloquer ces évolutions.
Ça a un impact négatif de combien ? Vous avez une idée justement ou pas ?
Non, je sais pas. Ce que j'ai dit, et nous discutons toujours avec les pouvoirs publics aujourd'hui, maintenez les bonus sur les électriques au niveau actuel, 6 000 euros. Mettez un bonus sur les véhicules électriques rechargeables qui existaient avant, si possible 2 000 euros. Créer un contexte un peu favorable pour le consommateur.
Ouais. Christian Peugeot, est-ce qu'il y a eu un effet gilet jaune, justement, qui est parti justement l'utilisation des voitures, mais vous l'avez vu sur le marché automobile français, l'impact. Du coup, ça reprend en septembre, c'est ce que m'expliquait un concessionnaire.
Oui. Écoutez, les gilets jaunes, c'est un phénomène qui a démarré clairement parce que l'augmentation des taxes sur le diesel était considérée comme excessive et pénalisante pour les gens. Ensuite, le mouvement s'est quand même un peu épaissi, on va dire, et c'est beaucoup moins clair. Mais il est vrai que le démarrage des gilets jaunes est lié au fait qu'on augmentait les taxes sur le diesel de manière difficile pour des gens qui utilisaient leur voiture pour aller travailler.
Ouais. Donc là, maintenant, c'est un peu passé, ce mouvement des gilets jaunes, dans tous les cas,
c'est
la crainte.
C'est un peu confus, maintenant.
C'est un peu confus, donc ça a un impact positif. En revanche, j'en parlais encore ce matin avec Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, il y a beaucoup d'incertitudes, de craintes sur le secteur de l'automobile, avec ces transformations dont on a parlé un petit peu, l'électrique, transformation, l'impact que ça peut avoir sur les sous-traitants. Est-ce qu'il faut s'attendre à un séisme dans l'industrie automobile ?
On peut s'attendre en tout cas à des difficultés locales et ponctuelles pour un certain nombre de sous-traitants, notamment ceux qui sont très liés au diesel, parce qu'effectivement, si le marché du diesel chute comme aujourd'hui et continue à chuter, il y aura des problèmes d'activité pour ces sous-traitants. Dans certains cas, ils peuvent modifier leur activité.
On le voit déjà à Montbéliard, on le voit déjà dans votre région que vous connaissez bien.
Oui, encore que, Dieu merci, l'usine de Sochaux tourne à plein. Mais il est certain que cette modification potentielle de l'industrie automobile va avoir des conséquences sur les emplois. Alors, on va voir ce que ça donne. Si le marché reste globalement bon, c'est quand même un point qu'on peut espérer. À ce moment-là, ça sera peut-être moindre. Mais enfin, il est certain que certains sous-traitants vont avoir des problèmes.
Oui. Mais vous l'avez chiffré, vous commencez déjà à travailler dessus avec le gouvernement.
Oui, a été évoqué 15 000 emplois potentiellement en jeu dès 2020. Donc, ça n'est pas nul. Non, il y a quand même une réelle attention sur ce type de problème.
Oui. En plus, il y a le Brexit où votre industrie va être très touchée parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de d'usines, et on l'a vu, sont implantées en Grande-Bretagne. Oui. Et certains, comme Nissan et d'autres, ont déjà annoncé qu'ils allaient fermer leur usine là-bas ou en tous les cas renoncer à l'implantation d'une nouvelle usine.
Ça va dépendre du Brexit. On est tous en train d'attendre les nouvelles de M. Johnson. Et puis le 31 octobre, bon, si le Brexit est un Brexit soft, avec finalement un maintien d'un marché européen...
Le backstop, c'est important pour vous.
Donc, donc les conséquences seront moindres. Si par contre on avait un Brexit dur, il est évident que là ça crée un vrai problème de fonctionnement.
Et comment vous vous préparez justement à ce Brexit? Parce que j'imagine que vous êtes déjà prêt. Oui. Je parle chez PSA, mais chez les autres constructeurs.
Il y a des hypothèses différentes selon la manière dont le Brexit se déroule. Donc les hypothèses sont sur la table, effectivement. Je ne veux pas en donner les détails, hein, mais enfin, on a.
Non, mais grosso modo, vous pouvez nous en donner les grandes lignes.
Les grandes lignes, c'est d'être extrêmement pragmatique. L'idée n'est pas de dire bon, si la Grande-Bretagne s'en va, nous partons de la Grande-Bretagne. C'est pas ça. Mais c'est de voir comment les choses s'organiseront dans une Europe qui sera un peu morcelée. Mais bon, le marché britannique en lui-même est important. Vous avez cité Nissan, Vauxhall est également dans le groupe PSA présent et produit. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée de partir sous prétexte qu'on serait fâché par rapport à un Brexit dur.
Est-ce que vous vous attendez dans les prochaines années, avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire vraiment la transformation de la consommation de véhicules, hein, oui. le Brexit, les Chinois, est-ce qu'il faut s'attendre à des années quand même de turbulences pour l'industrie automobile française ?
Écoutez, il y a toujours des turbulences en cours. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des choses positives. Les évolutions de la voiture en termes de voitures connectées, par exemple. Les aides à la conduite qui se développent, qui favorisent une meilleure sécurité. Et puis une valeur des voitures qui augmente. Donc, le pire n'est pas devant nous. Il y a simplement un monde un peu plus complexe. Mais moi, je reste persuadé que la mobilité passe quand même principalement par l'automobile, parce que les transports.
Est-ce qu'il y aura beaucoup de rapprochements de fusion? De grands groupes, grands constructeurs automobiles.
C'est un sujet journalistique formidable.
Ah non, ça vous concerne plus que nous, hein, en l'occurrence.
Oui, oui. Mais je n'en sais rien. Ça fait partie des thèmes permanents. Donc je ne peux pas faire de commentaires. J'ai pas, en tout cas, je ne suis pas Madame Soleil.
Toute dernière question en l'occurrence. Il y a lancement des véhicules les plus vendus en France. Nouvelle Clio, nouvelle 208. Oui. Elle se lance en même temps. C'est presque un peu dommage. Non, elles vont peut-être se neutraliser.
Les deux vont prendre certainement des parts de marché complémentaires aux autres concurrents.
Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous. Christian Peugeot, le président du comité des constructeurs français d'automobile et président de la fédération des constructeurs au niveau mondial. Voilà. Dans un instant, on parle d'un autre sujet aussi d'actualité qui peut rattraper les voitures. On va parler de fiscalité du patrimoine, fiscalité du capital et de l'ISF. Est-ce qu'il fallait réformer ou pas l'ISF? Mon invité, Fabrice Langlard, président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital. J'y suis arrivé.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Fallait-il réformer l'ISF? Fallait-il instaurer cette taxe flat? On sait que le président Macron est très attaqué sur ce sujet et il a demandé justement un rapport sur l'impact de la fiscalité du capital. Fabrice Langlard, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital et vous avez remis ce matin et même publiable qu'à partir de maintenant. Donc merci d'être là. Votre rapport sous l'égide de France Stratégie, un rapport qui est très détaillé, très technique, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des conséquences ou pas. L'IFI qui a été instauré à la place de l'ISF, finalement, il a rapporté beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait, non ?
Il a rapporté plus que ce à quoi on s'attendait, effectivement. Lorsque la réforme a été votée, le gouvernement tablait sur 850 millions par an sur l'IFI. Et en fait, en 2018, première année où il a été collecté, on a eu 1,3 milliard. D'une façon générale, la réforme qui a été implémentée par le gouvernement en 2018, qui consiste d'une part à remplacer l'impôt de solidarité sur la fortune par l'IFI, et d'autre part instaurer la flat tax, comme vous l'avez dit. L'évaluation du gouvernement à l'époque, c'était 5,1 milliards comme coût pour les finances publiques. Et aujourd'hui, le comité dit un peu moins, plutôt
4,5 milliards. De manque à gagner, quelque Exactement. Part. Hein. Oui, c'est ça.
Et donc aujourd'hui, le comité chiffre plutôt, au lieu de 5,1, plutôt 4,5 milliards. Sans compter le fait qu'en 2018, on observe une augmentation forte des dividendes versés aux ménages. Et cette augmentation de dividendes a généré aussi des recettes fiscales.
Oui. Alors, Fabrice Langlard, d'abord, avant d'en tirer toutes les conclusions, parce que c'est très important, votre rapport, parce qu'en fonction de ce rapport, on va savoir si oui ou non, éventuellement, il y aura une modification de la fiscalité du capital. Comment est-ce que vous avez travaillé ?
Alors, le comité d'évaluation, il rassemble un certain nombre de personnalités qualifiées d'horizons professionnels très divers. Vous avez une députée, qui est Nadia Haï. Vous avez des personnalités qualifiées qui sont des représentants du MEDEF, de la CPME, mais également de la CFDT et de la CFTC. Vous avez des économistes, universitaires, et puis des membres des grandes administrations concernées, donc principalement le Trésor, l'INSEE, et puis, évidemment, la Direction Générale des Finances Publiques. Moi, j'appartiens à l'INSEE.
Oui, d'accord. À partir de là, donc, vous avez mesuré l'impact que ça avait sur le revenu des ménages et quels étaient les ménages touchés. Parce qu'il y a la fiscalité d'un patrimoine qui est basé sur du foncier, sur les revenus financiers. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein, et l'impact est très différent.
Alors, effectivement, une des choses qu'on trouve dans le rapport, c'est d'une certaine façon des constats avant la réforme. Oui. Et ce qu'on peut dire sur les constats avant la réforme, c'est d'une part que la fiscalité du capital en France, elle était relativement atypique par rapport aux autres grands pays. D'une part parce qu'elle était plus lourde, et d'autre part parce que la France faisait partie des rares pays, c'est pas le seul, mais des rares pays qui pratiquaient ce qu'on appelle la double taxation, c'est-à-dire la taxation du patrimoine lui-même, mais également des revenus qu'il génère. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour la première fois dans ce rapport, nous avons des études spécifiques sur l'ISF, qui montre que l'impôt de solidarité par la fortune, certes frappait les personnes qui ont un patrimoine en France, donc riches, mais il frappait beaucoup plus, si j'ose dire, les petits patrimoines ou les patrimoines
les
moyens.
Les petits gros patrimoines.
Voilà. Et beaucoup moins, en fait, les très gros patrimoines, parce que tout en haut de la distribution des patrimoines, vous avez des personnes qui, en fait, bénéficiaient de ce qu'on appelle le plafonnement.
À
75%. C'est-à-dire ce mécanisme qui faisait, décidé par le Conseil constitutionnel, qui faisait qu'on ne peut pas être imposé à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur la fortune, au-delà de 75% de ses revenus. Et en fait, ce plafonnement touche beaucoup plus les très gros patrimoines en France, si bien que en proportion de leur patrimoine, c'est eux qui, à l'ISF, payaient en taux apparent moins que les autres.
Donc, les conséquences de cette réforme, d'abord, un, vous avez déjà dit que ça coûte moins cher à l'État. Enfin, en tous les cas, le manque à gagner est moins important pour l'État.
Il y a un manque à gagner, mais effectivement, par rapport aux chiffres qui étaient annoncés initialement, c'est plutôt un peu moins.
Voilà. Et deuxièmement, ça a modifié, je dirais, la physiologie des personnes qui sont impactées par cette réforme. Donc, c'est plus les hauts revenus qui sont impactés par cette réforme que les moyens revenus.
Alors, ce qu'on peut dire en termes d'impact, au-delà du coût dont on vient de parler, c'est d'une part que cette réforme, elle a bénéficié évidemment aux personnes aisées, mais 1% des foyers payaient l'ISF et ces 1% qui payaient l'ISF sur l'échelle des revenus ne se situaient pas tous dans les 1% des revenus les plus élevés. Donc d'une part, elle a bénéficié à des personnes de revenus aisés, mais plutôt pour les 5% les plus élevés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le nombre de contribuables à l'ISF, quand on compare aux contribuables à l'IFI, il a été divisé par 3. Il y avait 360 000 foyers qui étaient imposables à l'ISF. Il y a aujourd'hui 130 000 ménages qui sont imposables à l'IFI. Mmh. Et ceux qui sont devenus exonérés sont ceux qui avaient les patrimoines, disons, les moins élevés. Ceux qui continuent à payer l'IFI, qui ont donc des patrimoines plutôt plus élevés, ont également eu une réduction d'impôt importante, puisque ceux-là, d'une année sur l'autre, ont vu leur impôt divisé en moyenne par 3,5.
Oui. Est-ce que ça a eu un impact sur l'immobilier ou pas ? Alors, le patrimoine immobilier des Français.
Alors, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le comité d'évaluation, il est capable de donner quelques éléments qu'on voit apparaître tout de suite, on y viendra peut-être, mais en termes d'impact sur l'économie c'est un impact sur l'économie qui est attendu plutôt à moyen-long terme. Et donc, de ce point de vue-là, on a peu de choses à notre disposition. On a engagé des travaux, mais qui déboucheront un peu plus tard. S'agissant de l'impact, par exemple, sur le marché immobilier, tout ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a, en l'absence de données, on a fait passer une enquête qualitative auprès de gestionnaires de patrimoine, de gens qui s'occupent de la gestion des gens qui ont un certain patrimoine. Et qualitativement, ce qui remonte, c'est qu'effectivement, cette réforme a permis de commencer à dégeler des arbitrages en termes d'actifs, et donc plutôt un peu moins d'immobilier et un peu plus de dividendes mis sur des produits d'assurance vie, on va dire, en unité de compte, c'est-à-dire en actions. Mais néanmoins, ces mouvements prennent du temps. Et donc les gestionnaires qu'on a interrogés disent qu'ils voient quelque chose qui se met en place, mais qu'il est encore un peu tôt pour le dire concrètement.
Quelles sont les surprises ? Qu'est-ce qui vous a surpris, vous, Fabrice Anglard, en l'occurrence ? Et quel est l'avis ensuite, l'avis officiel cette fois-ci, du comité d'évaluation ?
Je dirais que...
Ce à quoi vous vous attendiez pas ?
Il n'y a pas vraiment de choses à laquelle je ne m'attendais pas. L'impact redistributif instantané. Jusqu'à présent, il y avait un ensemble d'études qui avaient été publiées. L'IPP, l'Institut des politiques de Paris, ou encore l'FCE, avaient publié des estimations disant que cette réforme bénéficiait vraiment aux gens les plus élevés dans la distribution des revenus. Donc plutôt les 1% aux revenus les plus élevés. Les nouvelles études dont nous disposons par l'INSEE montrent qu'elle a bénéficié à des gens qui sont en haut de l'échelle des revenus, mais pas uniquement aux 1%, disons. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on peut mettre en avant, c'est que cette réforme semble avoir eu possiblement un impact sur les départs à l'étranger. Et ceci dès 2017, c'est-à-dire que avant même que la réforme soit votée, mais elle était dans le débat public et elle avait été annoncée par le président puis le président élu Emmanuel Macron, on observe que le nombre de départs à l'étranger de personnes qui payaient l'ISF a diminué fortement en 2017 à des niveaux qu'on n'avait pas vus 12 ans auparavant. Deuxième élément important, c'est qu'en 2018, on observe une hausse des dividendes reçus par les ménages en France, assez importante. Et cette hausse, elle fait miroir avec une baisse qu'on avait observée auparavant en 2013, au moment où le gouvernement précédent avait décidé d'imposer au barème progressif ces mêmes revenus de dividendes. Donc, à ce stade, le comité ne peut pas dire qu'il y a un rapport de causalité, mais disons que le lien est plausible et il n'est pas négligeable. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est la question de savoir comment mesurer, au-delà de ces effets instantanés, l'effet que peut avoir une réforme de ce type sur, disons, le dynamisme de l'économie française, donc l'investissement des entreprises, le tissu productif, voire l'emploi.
Absolument.
Et donc, de ce point de vue-là, le comité n'est pas en mesure de se prononcer pour l'instant. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que ces effets prennent du temps et on n'est qu'en fait à peine à un an et demi après le début de l'implémentation de la réforme. Et deuxièmement, parce que pour pouvoir mesurer précisément cet impact sur ce type de variable, ça demande des travaux très fouillés de type universitaire. Le comité a lancé ces travaux, donc des équipes universitaires sont en train de travailler sur ces sujets-là, mais ces résultats n'arriveront qu'après et ils nourriront les rapports suivants parce que le comité est installé dans la durée. Donc vous aurez des résultats de ce type.
Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Fabrice Langlard, c'est que finalement, attendez, c'est pas suite à ce rapport que la décision sur l'avenir de la réforme de la fiscalité du capital va être prise ou pas. Il faut attendre l'impact que ça peut avoir sur l'économie française. Hein, on est d'accord là-dessus?
Moi, le comité n'a pas à se prononcer sur l'opportunité ou pas de modifier cette réforme. Et si ça doit se faire maintenant, plus tard ou jamais. Ce que je dis, c'est que le travail dont nous sommes chargés, qui est un travail d'évaluation scientifique, prend nécessairement du temps. Et donc pour savoir si oui ou non cette réforme a eu un impact bénéfique et si cet impact est important ou pas, il nous faut encore du travail, il faut faire travailler des équipes universitaires. Et on aura de premiers résultats dans un an, mais je pense que le comité est là dans la durée, et donc on produira un rapport dans un an, mais également probablement encore dans deux ans. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est qu'à l'occasion de l'installation de ce comité, nous avons demandé que le Bercy mette à disposition des chercheurs un ensemble de données d'informations fiscales beaucoup plus important qu'auparavant, et ça a été fait. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait nouvelle dans laquelle l'ensemble des chercheurs du monde académique vont avoir accès à des données exhaustives en matière fiscale, tant sur l'impôt sur le revenu que sur l'impôt sur la fortune. Sur le passé, sur longue période, et donc il n'y a aucun doute qu'au-delà des études que le comité a commandées auprès d'équipes universitaires, d'autres équipes universitaires vont s'emparer de ces données. Donc la recherche académique produira des papiers, et donc il n'y a aucun doute qu'on dira des choses l'an prochain.
À propos de recherche académique, qu'est-ce que vous pensez du livre de Thomas Piketty, du reste qui sera mon invité lundi prochain, en l'occurrence, sur le fait qu'il faut taxer la propriété du capital, et que le capital, il renforce les inégalités. Est-ce qu'en fonction, je vous demande pas de prendre vraiment position, mais en fonction des travaux que vous avez faits, de ce que vous faites, Fabrice Langlard, est-ce que vous avez une réponse en tous les cas de quelqu'un de l'INSEE?
Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que dans ce rapport, on a fait l'effort, il y a toute une partie qui est consacrée à ce rapport, de faire une revue de littérature économique sur ce que disent aujourd'hui les économistes de par le monde en matière de fiscalité du capital. Revue de littérature qui porte sur des papiers théoriques et des papiers empiriques. Mmh. Et là, il y a un certain nombre de leçons qu'on peut mettre en évidence. Premièrement, d'un point de vue théorique, il est normal de taxer le capital dans n'importe quel pays. Tout simplement parce que les capacités contributives de personnes qui ont un patrimoine important ne sont pas forcément les mêmes capacités contributives de personnes qui ont des revenus importants. Et donc, dès lors qu'on veut que l'impôt, eh bien, soit en fonction des capacités contributives des contribuables, il est logique que de taxer le capital, ça, d'une façon générale. Deuxième enseignement...
Le capital, pas le revenu du capital. Alors, d'abord, dans un premier temps, le capital, on est d'accord.
Je dis le capital d'une façon très large. Ensuite, le deuxième point, c'est que quand on parle de taxation du capital, en fait, on parle de tout un tas d'impôts possibles. C'est-à-dire qu'on peut taxer le capital au niveau des entreprises. Par exemple, l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui s'exerce sur le capital. Mm-hmm. On peut le taxer au niveau des ménages et on peut le taxer à la fois pour la détention, pour les revenus qu'il génère et aussi pour les transmissions, que ce soit à titre gratuit ou lorsque vous vendez des biens.
Il y a trois étapes de fiscalité.
Exactement. Donc, la fiscalité du capital, c'est quelque chose de très large. Et donc, ce que disent les économistes, c'est que la façon dont vous taxez le capital dans un pays n'a pas forcément les mêmes effets suivant que vous recourez à tel ou tel type d'impôt. Ça va encore plus loin. Quand on regarde les études empiriques que nous avons documentées dans le rapport, il y a un message qui ressort assez fortement, c'est que l'imposition par l'impôt sur les sociétés, donc l'imposition en fait des bénéfices des sociétés, est l'impôt qui a priori pèse le plus non seulement sur l'investissement des entreprises, mais même sur leur demande de travail, c'est-à-dire sur l'emploi et sur les salaires. Donc ça, c'est un enseignement de la littérature empirique aujourd'hui.
Et comment vous expliquez ça, en fait ?
Alors, mais en fait, on l'explique...
Parce qu'à la limite, le dividende, c'est extérieur à l'entreprise, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme il y a une fiscalité forte, il faut distribuer plus de dividendes.
En fait, donc, ça pénalise l'investissement. Ces papiers mettent en évidence ce type de phénomène, parce que lorsque vous taxez à l'impôt sur les sociétés et les entreprises, en fait, les décisions d'investissement peuvent varier. Une entreprise peut décider d'investir plus dans un pays que dans l'autre, suivant que la fiscalité en termes d'impôt sur les sociétés est différente. Et en fait, décision d'investissement, ça joue sur l'activité économique du pays et ça joue également sur l'emploi. Mmh. Et des papiers empiriques sur différentes réformes qui sont intervenues de par le monde ont mis en évidence de façon causale ces effets. Donc ça, c'est documenté. En revanche, quand on regarde les papiers empiriques qui portent sur des réformes sur la fiscalité des ménages, donc là, je parle de taxer le patrimoine des ménages ou les revenus du patrimoine des ménages. Là, les études empiriques dont on dispose montrent que les effets sont beaucoup plus variés, donc il n'y a pas de message aussi clair. Il apparaît que cette fiscalité sur le patrimoine des ménages joue sur la trajectoire du patrimoine des ménages. Il apparaît bien souvent qu'elle peut jouer également sur les dividendes reçus par les ménages, et c'est précisément ce que je veux dire. En 2018, on observe ça, même si le lien causal n'est pas encore démontré. En revanche, quand vous regardez l'ensemble de la littérature économique, il n'y a aujourd'hui pas de papier qui montre des impacts à court moyen terme de cette fiscalité des ménages sur l'investissement ni sur l'emploi. Ça, on n'a pas.
D'accord.
Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer en France, parce qu'encore une fois, cette revue de littérature qui est très utile, elle est faite sur des papiers qui sont produits sur des tas de réformes dans des tas de pays. Mmh, et comparaison ne vaut pas raison. Donc, il faut mener des études de ce type-là dans le cadre de la réforme qui nous occupe. C'est ce que le comité du capital va s'attacher à faire, et c'est pourquoi il a mandaté des équipes universitaires pour le faire.
Est-ce que vous vous dites, en l'occurrence, que donc, sur le Thomas Piketty, c'est quoi votre position?
Ah, j'ai pas de position sur le livre de Thomas Piketty.
Non, mais
ce que je dis, c'est que je veux pas rentrer sur le fond de l'ouvrage, que d'ailleurs je n'ai pas lu son dernier ouvrage, donc je ne veux pas en parler. En revanche, ce que je dis, c'est que lorsque Thomas Piketty dit que d'une façon générale, il est normal de taxer le capital dans un pays, de même qu'il est normal de taxer le travail, là, ce propos très général-là, il fait consensus dans le monde des économistes.
D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver votre revue de littérature?
Alors, elle se trouve dans ce gros rapport, c'est le chapitre 4, ça fait une cinquantaine de pages. Et on a essayé
d'écrire les
choses...
Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils peuvent...
Tout est en ligne sur le site de France Stratégie.
D'accord.
Stratégie.gouv.fr, normalement depuis midi. Et donc, si vous ouvrez ce gros document, et si vous voulez vous apprendre un peu sur ce que disent les économistes en matière de fiscalité du capital, vous allez voir le chapitre de mémoire 4, qui fait une cinquantaine de pages et qui, on a essayé de faire l'effort d'être le plus pédagogique possible pour présenter l'état de la littérature et des études académiques, tant théoriques qu'empirique sur le sujet.
Ouais, bah c'est un vrai débat en ce moment, on voit bien aussi. Est-ce qu'on fait avec cette réforme de 2018, est-ce qu'on se rapproche des modèles, des autres modèles occidentaux, on va dire ?
Alors, dans une certaine mesure, oui. Je peux l'illustrer, par exemple, sur un exemple précis, c'est l'affaire de la flat tax.
Ouais.
Quand on regardait la façon dont les pays développés taxaient les revenus du capital, les revenus du patrimoine des ménages, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, il y avait une grande diversité. Et les premiers pays développés qui se sont mis à instaurer plutôt une taxe forfaitaire, d'un montant forfaitaire, c'est plutôt les pays scandinaves, qui ne sont pas réputés comme étant les pays les plus libéraux, mais plutôt sociodémocrates, mais qui ont fait le choix d'avoir une taxation à un certain niveau, mais forfaitaire sur les revenus du capital. Ce mode de taxation s'est ensuite répandu dans d'autres pays, et d'une certaine façon, la réforme implémentée en 2018 s'inscrit dans ce courant qu'on voit dans beaucoup de pays.
Oui, donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Merci beaucoup. Vous revenez nous voir quand, donc, sur la deuxième version,
Écoutez,
sur l'impact
Normalement, on prévoit de continuer à travailler dans la durée. Et donc, au plus tard, un rapport de ce type sera produit dans un an.
Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous.
Merci
Fabrice Langlard, donc, le président du comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital. Vous avez bien compris, c'est vraiment un des débats du moment. Alors sinon, vous voyez, je vous dis tout, c'est en direct. François-Xavier Celeret, qui est le directeur général de l'Agir Carco, qui voulait venir ici pour nous parler de nos retraites complémentaires. Et bien donc, il a décidé évidemment de ne pas venir. Je ne sais pas pourquoi. Il nous le dira peut-être un jour ou l'autre. En tous les cas, ce que je vous propose, c'est de réécouter Nicolas Dufourcq. Il était mon invité ce matin, Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. Ils ont publié des bons chiffres, vous verrez, sur le financement et puis sur l'activité investissement de BPI France. BPI France que Nicolas Dufourcq qualifie un peu comme le médecin de campagne auprès des entreprises. Mais pour l'instant, passe à l'actu avec Thomas Asportas.
BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Et donc, vous l'avez compris, on s'est fait planter, en l'occurrence, par le directeur général de l'Agir Carco. Mais Thomas Asportas, lui, il est là pour le rappel des titres. Thomas, c'est à vous.
Et on ouvre ce journal avec ces nouvelles un peu plombantes, là aussi, qui nous viennent de l'OMC, le commerce international, qui devrait finalement progresser que de 1,2% cette année contre 2,6% prévu au départ. Pour l'année prochaine, la prévision passe de 3 à 2,7%. L'OMC pointe du doigt, bien sûr, l'effet des tensions commerciales, mais aussi la volatilité financière et le Brexit. Et puis, les craintes de l'OMC se confirment avec la contraction du secteur manufacturier qui se prolonge en Europe. L'activité en zone euro en septembre est tombée au plus bas depuis 7 ans. Ça fait maintenant 8 mois d'affilée que le secteur manufacturier se contracte en zone euro. En Allemagne, les PMI manufacturiers sont maintenant à leur plus bas niveau depuis juin 2009. En France, l'activité a là aussi ralenti, même si elle se maintient tout juste en zone de croissance. Et puis en Grande-Bretagne, l'activité est toujours en contraction et les effectifs ont subi leur baisse la plus marquée depuis février 2013. Et puis on reste en Grande-Bretagne justement avec la CBI. La CBI, vous savez, c'est MEDEF britannique, qui nous dit que le moral de la finance britannique est maintenant au plus bas depuis la crise de 2008. 56% des patrons du secteur financier britannique disent avoir beaucoup moins confiance en l'avenir. Le secteur aurait déjà perdu 5000 emplois du fait du Brexit. Boris Johnson promet qu'il va présenter très bientôt de nouvelles propositions pour éviter un hard Brexit et notamment bien sûr sur la question du backstop. Ce sera d'après les médias britanniques ce jeudi au plus tard. Et puis les taux négatifs vont-ils bientôt peser sur nos assurances-vie ? La question se pose. En tout cas pour François Villeroy de Gallo, les taux servis sur les contrats en cours sont aujourd'hui encore élevés, 1,8% en moyenne. Ils devront baisser pour tenir compte de la diminution des rendements, nous dit François Villeroy de Gallo. Le gouverneur de la Banque de France ajoute qu'il veillera à ce qu'aucune banque française n'applique de taux négatifs pour les dépôts à vue des particuliers et des PME. Du côté des entreprises, l'actualité, c'est bien sûr, on en parlait tout à l'heure avec votre invité Edwige, Christian Peugeot, le patron du CSAFA, et bien le rebond du marché automobile français, puisque les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 16,6% au mois de septembre par rapport au mois de septembre 2018. Alors on se souvient qu'à l'époque, il y a un an, les ventes d'automobiles étaient plombées par l'entrée en vigueur des nouvelles normes anti-pollution WLTP, mais le marché français, manifestement, s'est bien remis du choc de ces nouvelles normes. Le CSAFA prévoit maintenant une année 2019 quasiment à l'équilibre. Dans le détail, les ventes de PSA ont progressé de 8% en septembre et celle du groupe Renault de près de 22%. Sinon, dans le reste de l'actualité, mais toujours dans le secteur des transports, Air France va compenser à partir de l'année prochaine toutes les émissions de CO2 de ses vols intérieurs. La compagnie explique aujourd'hui dans un communiqué que cette compensation prendra la forme de participation à des projets certifiés par des organismes reconnus. Air France annonce également vouloir réduire de 50% ses émissions de CO2 d'ici à 2030. Et puis pour finir, la situation des Vélib à Paris a l'air finalement de s'être nettement améliorée. C'est en tout cas ce qu'affirme son nouvel opérateur Smooth & Go, hein, qui, vous le savez, a succédé à JC Deco, c'était en janvier 2018. Smooth & Go, donc, qui déclare avoir aujourd'hui 255 000 abonnés contre 285 000 à l'époque pour JC Deco. Donc, effectivement, on n'est plus très loin. 16 000 Vélib aujourd'hui sont en circulation en Ile-de-France, d'après le dernier pointage de Smooth & Go. BFM Business, il est midi 43. Je vous redonne le CAC qui recule, qui abandonne un peu de terrain, 0,18% à 5 667 points. L'euro dollar, quant à lui, est stable. Un euro s'échange pour 1,0902 $.
Merci Thomas. Lui, il était bien là. Je vous propose d'écouter et de réécouter Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France. Il était mon invité ce matin à 8h15.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Nicolas Dufourc, bonjour. Nicolas Dufourc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, vous allez présenter vos chiffres sur le premier semestre 2019. Plutôt des bons chiffres, à voir, en termes de financement des entreprises, près de 9 milliards, en termes de cessions, d'investissement en fonds propres cette fois-ci. Là, c'est 1,3 milliard. On va revenir sur tous ces chiffres. Juste, est-ce que effectivement, vous avez l'impression que la France est plus compétitive aujourd'hui? Est-ce que vous le ressentez ou pas?
Oui, je le ressens tout à fait. Je pense que la plupart des grands chantiers de compétitivité ont été attaqués. Et au fond, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est plutôt les recrutements. Hein. Mais je n'entends plus d'entrepreneurs se plaindre de la question du coût du travail ou du droit du travail.
Pourtant, ça reste.
On se plaint encore énormément des normes.
Oui.
Et notamment des normes environnementales. La question n'est pas seulement française, d'ailleurs, elle se pose dans les pays scandinaves, elle se pose en Allemagne aussi. Hein. Il y a une demande sociale qui est extrêmement puissante et qui est quand même un frein à l'économie productive.
Vous avez même sorti un chiffre très fort, vous avez dit les problèmes de recrutement, ça nous coûte à peu près un point de PIB. Je trouve que c'est énorme comme calcul. Oui. Comment vous arrivez à ce chiffre-là?
C'est tellement massif dans l'expérience qu'on a chez nos clients. Et que tout le monde a, parce que ça descend jusqu'au TPE. Souvenez-vous qu'on a 1,5 million de TPE. La TPE n'arrive pas à recruter non plus. Hein. On finit par se dire que les conséquences macroéconomiques sont énormes. Ça fait des années chez BPI France qu'on se dit que la croissance française sera bornée par ça. Et essentiellement par ça. Hein, parce que notre croissance potentielle, elle est limitée par cette question qui est une question fondamentale. D'où l'importance du grand plan de formation de 15 milliards d'euros. Hein.
Oui.
Il faut qu'il réussisse ce plan.
Qu'on le mette en œuvre et puis qu'il réussisse.
Il est fondamental.
Oui. On revient un peu sur ces chiffres parce qu'à travers votre activité, on voit bien la santé des entreprises, des PME, des TPE françaises. Hein, c'est important aussi. Financement, près de 9 milliards d'euros, notamment ce que j'ai relevé, très important sur la transformation numérique. Ça, c'est un point très important.
Oui. Non, effectivement, il y a des moteurs de croissance pour BPI France qui sont la digitalisation.
Oui. Enfin.
Enfin, hein, mais également la transition énergétique. Et j'ai envie de dire que la transition énergétique est beaucoup plus importante encore. Hein. C'est là qu'on voit les gros volumes de crédits demandés. C'est là également qu'on investit des volumes d'equity, de fonds propres très significatifs en ce moment. Hein. En fait, on a été surpris au premier semestre par la croissance de la demande dans le monde des développeurs de la transition énergétique. Il est en train de se passer quelque chose en France. Hein. On est passé d'un moment qui était un moment d'attentisme à un moment d'urgence conçu, et maintenant quasiment de boutons de panique, comme on dit. Hein. Et donc on va voir les projets de transition énergétique, éolien, photovoltaïque, se multiplier dans des proportions inconnues à ce jour. Et nous les finançons.
Et vous avez une demande de combien à peu près? Parce que vous dites qu'il y a une vraie transformation là qui est en train de se faire.
Bah, ça représente pour nous, au premier semestre, vous avez vu qu'on a 14% de croissance sur nos crédits. Mmh. On parle bien des crédits qui sont des crédits classiques. Hein,
avec
prise de garantie, crédit bail, etc. Et l'essentiel de cette croissance, 90% de cette croissance, c'est la transition énergétique. Ouais. Donc BPI France est en train de devenir une banque du climat importante en France.
J'insistais sur le digital, parce que vous avez fait, c'était il y a quelques mois, un sondage qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y avait près de 80% des dirigeants de PME que vous aviez interrogé qui disaient, bon, le digital, le numérique, pour moi, c'est pas essentiel. Oui. Alors que c'est vraiment essentiel. Là, on sent qu'il y a un basculage quand même, qui s'est fait.
Oui. On est passé effectivement de 80% d'attentisme il y a quelques années, 3-4 ans, à 50% maintenant.
Hein, c'est énorme, un sur deux quand même.
Hein. Ça reste un sur deux, mais vous savez, dans la plupart des sujets qui sont les sujets de modernisation, on a à peu près un sur deux de ratio dans les enquêtes que nous réalisons. Hein, voilà. Donc effectivement, la digitalisation, c'est pas beaucoup d'argent. Hein. C'est pas des volumes de crédit considérables. C'est juste la conscience des entrepreneurs qu'il faut y aller.
Oui, et puis c'est la transformation.
Donc c'est tout le travail qu'on fait autour du capital humain, des accélérateurs, des consultants qu'on envoie en entreprise, qui devient un cinquième métier fondamental de BPI France.
J'ai envie de dire aujourd'hui, puisque les entreprises vont mieux, enfin la lecture en tous les cas de vos résultats pour le premier semestre, Nicolas Dufourcq, on a envie de se dire, mais finalement à quoi sert la BPI? On verra, il y a le côté investissement en fonds propres, fonds souverains à la française. Oui. Mais sur le plan financement, finalement, les banques, elles ont plus besoin de vous aussi.
Il y a une manière très particulière de faire de la banque, qui est la manière de BPI France, qui consiste à mettre à peu près autant de capital humain que de capital financier. C'est-à-dire d'être
Ce que ne font pas les banques.
Ce que ne font pas les banques. Et donc d'être réellement ce qu'était le médecin de campagne bancaire des années 60, très très proche de l'entreprise, très familial, très intime avec l'entrepreneur, avec dans nos agences une boîte à outils qui est absolument incroyable, hein, puisqu'elle va depuis le crédit court terme jusqu'à l'assurance crédit dite COFAS, en passant par les fonds propres, le conseil, le financement de l'innovation. Cette offre de valeur là, elle est même unique au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule banque au monde qui fait ça. Hein. Il y en a peut-être une au Canada qui est la Banque de Développement du Canada, et évidemment les clients adorent ça.
Ouais. Toute sinistralité que vous rencontrez sur
très
cette
faible.
Activité-là,
très la faible. Sinistralité pour l'instant ne monte pas plus chez nous que chez les banques françaises.
Ouais, je pose la question du reste à Frédéric Oudéa, le président de la Fédération bancaire française maintenant et président de la directeur général de la Société Générale. Je lui dirais, tiens, ce que vous venez de dire en disant les banques, elles font pas vraiment de boulot, heureusement que nous sommes là.
Non, on attention, qu'on soit bien clair, oui. Les banques financent bien.
Oui.
En revanche, tout ce qui va autour, qui fait la performance de la PME, qui fait qu'une PME va devenir une ETI, tout cet accompagnement. Imaginez que nous sommes en train d'ouvrir cette année 2019 45 accélérateurs qui sont des académies d'entrepreneurs. Nous allons faire passer 4000 entreprises dans nos écoles. On est en train de devenir le plus gros réseau d'executive education européen pour les patrons de PME, Quadra. Ça, aucune banque le fait. Et c'est tout à fait normal. C'est notre mission à nous.
Forcément, oui. Je voudrais qu'on parle maintenant d'investissement. Investissement dans les start-up, investissement dans les ETI. Vous mobilisez énormément. Il y a eu tout l'événement autour d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il fallait transformer, investir 5 milliards. Vous-même, vous avez investi. Combien vous avez investi dans les start-up? Au jour d'aujourd'hui.
À date, au total.
Oui.
Bah, on a en direct à peu près 2 milliards d'euros investis, et puis en indirect, nous avons 5 fois 4, 20 milliards.
Oui. Donc ça veut dire que c'est très très important.
Hein, fondamental.
Et essentiel. Comment faire pour que ces entreprises, justement, deviennent des scale-up? C'est un peu tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment et que vous essayez de faire.
Bah, il faut trois choses. Oui. La première, c'est que l'entrepreneur ait envie de le faire. C'est-à-dire que quand on lui fait un très gros chèque, il a le courage de le refuser et de continuer. Je cite toujours Serge Kampf qui refusait trois fois des offres d'IBM de rachat de Capgemini dans les années 60 et 70 surtout. Donc est-ce que vous avez ou pas envie de faire un très grand groupe mondial? Bon, ça c'est dans votre cœur. Hein. C'est vraiment. Mais ça se travaille. Donc hier dans mon bureau, j'avais un entrepreneur qui est de cette catégorie-là, qui a déjà refusé un chèque qui aurait fait sa fortune pour la vie et ses enfants et ses petits-enfants. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, il faut les accompagner dans la durée et mettre beaucoup de capital. Ça, maintenant, la France peut le faire. BPI France a un fonds d'un milliard d'euros pour faire ça. On finance des fonds qui sont des fonds dits de croissance late stage en France qui peuvent le faire également. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on anticipe. Aujourd'hui, on finance 800 startups par an. Ces startups, en fait, elles se comportent plutôt pas mal. Donc elles vont grossir. Certaines vont mourir, mais pas beaucoup. Et donc on sait qu'en 2022, on va avoir besoin d'énormément de capital pour elles. Le capital français, compagnie d'assurance, investisseurs institutionnels, BPI France, ne va pas suffire. Raison pour laquelle nous allons chercher du capital étranger, et en particulier américain. Raison pour laquelle nous avons fait cet événement la semaine dernière.
Oui. Vous parlez du grand flip, en l'occurrence, et des entreprises, des startups qui vont, notamment aux États-Unis, pour trouver des financements, pour se développer, parce qu'elles ne trouvent pas ce qu'il leur faut en France. Est-ce que c'est inexact ou là encore c'est culturel?
Alors c'est les deux. C'était tout à fait vrai il y a, je dirais, 5 ans. C'est devenu inexact. C'est-à-dire que vous avez des fonds français qui sont capables de mettre 30, 50 millions d'euros. Voilà. Ensuite, vous avez des entrepreneurs qui ont très envie, en fait, de s'installer aux États-Unis. Bon, ça, c'est leur choix. Et puis ensuite, très souvent, on est dans le monde du software. Ou dans le monde, au fond, du B2B digital. Et là, le marché américain, c'est 30 à 40% du marché mondial. Donc, vous devez y être. Et là, vous avez des investisseurs américains qui vous disent, écoutez, nous, on investit chez vous si vous flippez, cette expression qui est en général utilisée, c'est-à-dire vous changez votre siège social. Ouais. Il faut avoir le courage de refuser. Il faut, parce que c'est faux. Il n'est pas nécessaire de flipper pour faire un parcours business de très grande qualité dans ce monde-là, aux États-Unis aujourd'hui.
Est-ce que vous arrivez à drainer des fonds américains et puis des fonds allemands aussi? Je crois que vous partez souvent en Allemagne pour essayer de les convaincre de venir investir en France.
Oui.
On vous dit quoi? Est-ce qu'on vous dit, bon, d'accord, il y a déjà beaucoup, de capital investissement et de capital risque en France?
Qu'on soit bien clair. On a beaucoup moins besoin maintenant des fonds de capital risque américains qu'avant,
ouais.
Puisqu'on a une place forte du capital risque, il y a 40% de parts de marché en Europe.
Ouais.
Les fonds allemands sont peu nombreux, hein. Et les fonds américains, ils sont tous à Londres, et de Londres, ils viennent choisir les meilleures pépites françaises. Mmh. Donc le sujet n'est plus là. Le sujet, c'est que les investisseurs américains, c'est-à-dire les fonds de pension, les endowments d'université et les grandes familles, doivent financer les fonds français, comme ils financent les fonds israéliens et les fonds chinois. C'est ça, la nouvelle frontière. Et c'est ce que nous faisons. Hein. Donc, quand on va aux États-Unis ou en Allemagne, c'est pas pour aller chercher des fonds d'investissement, des équipes, on les a déjà. C'est pour aller chercher des investisseurs institutionnels.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop d'argent en France lorsqu'on voit la valorisation, les valorisations qui sont devenues très très, enfin, très, très élevées en ce moment? On voit bien que certains commencent à se méfier justement de cette valorisation trop élevée.
Je ne crois pas qu'il y ait de bulle en France à ce stade.
Non.
On est sur des prix qui sont encore très significativement inférieurs aux prix américains, ouais. À tous les niveaux, y compris le salaire du dirigeant, le salaire des développeurs. Et donc, l'économie est en train d'être totalement bouleversée et renversée. Donc c'est tout à fait normal qu'on fasse ces mains. On ne peut pas à la fois demander qu'il y ait dans 20 ans de nouvelles entreprises dans le CAC 40 et refuser de considérer que celles qui sont en train d'apparaître valent très cher.
Nicolas Dufour, juste encore, il nous reste très peu de temps. D'abord, comment éviter meilleur taux? Une super boîte française vient de se vendre à Axel Springer. Vous le regrettez?
Non. Je trouve qu'il faut faire l'Europe.
Il faut faire l'Europe.
Et Axel Springer a été un consolidateur majeur du digital européen. C'est une entreprise fantastique.
Nicolas Dufour, pourquoi vous n'avez pas investi dans XL Airways, éventuellement avec Azure? Non, mais vous avez bien investi dans Valourec, qui était aussi en situation très difficile, qui maintenant se porte mieux.
C'est drôle, oui.
Pourquoi?
Je ne me suis même pas posé la question. Et d'ailleurs, personne ne nous a posé la question.
Bah oui, mais enfin, c'est bizarre quand même.
Oui,
rendez-vous les salariés qui sont sur le tapis.
Non, mais là, il faut que vous compreniez comment fonctionne BPI France.
Ouais.
Les entrepreneurs viennent à nous quand même. Ces entrepreneurs-là sont jamais venus voir BPI France. Hein. Alors jamais. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il devait y avoir peut-être quelques raisons. Hein. Mais non, on finance tellement. On a un deal flow aujourd'hui d'entrepreneurs qui est tellement considérable. Demandez-leur. Pourquoi ils ne sont pas venus nous voir?
Ouais. Secteur automobile, c'est le premier grand sinistre. Prochain grand sinistre.
Écoutez, ça se prépare tout ça. Nous, on est actionnaire de Peugeot, on est actionnaire de Valeo, on est actionnaire de ST Microelectronics qui a 40% de son chiffre d'affaires en automobile. Donc on connaît vraiment très très bien le secteur. Puis on est actionnaire de quantité de PME dans la vallée de l'Arve et partout. Et donc on est très à l'affût, très en anticipation, au point que on a créé une école pour PME du secteur automobile, qui est l'accélérateur que nous avons créé avec la plateforme automobile. Et on va probablement en créer une deuxième pour des territoires particuliers, et notamment le territoire de la vallée de l'Arve. Vous savez, en Haute-Savoie, qui travaille essentiellement dans le monde de l'automobile. Donc tout ça se prépare. Il ne faut pas être fataliste. Hein. Toutes ces entreprises peuvent faire autre chose que l'automobile. Elles peuvent faire de l'aéronautique.
Voilà,
oui, il faut les transformer.
Merci beaucoup Nicolas Dufour d'avoir été avec nous, directeur général donc, de la Banque publique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, Nicolas Dufour qui était mon invité ce matin pour pallier à l'absence du directeur général de l'AGIRC Arrco. Mais vous avez compris, il est quand même très intéressant de voir que l'économie française se porte beaucoup mieux. J'en profite pour vous dire que demain à 8h15, je recevrai Olivia Grégoire. Elle est porte-parole La République En Marche. Elle était députée de Paris, bien sûr. On parlera du PR, du plan d'épargne retraite. On parlera de la loi PACTE, dont elle était rapporteuse. Et on parlera, bien sûr, du budget. À 12h30, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui sera avec nous. Bonne journée, rendez-vous demain à 8h15, 12h, 13h.